n'y a pas d'arme, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Oh yeah. Bonjour, il est 13h, vous êtes bien sur Radio Canu, nous sommes le vendredi 8 décembre et comme tous les vendredis de 13h à 14h, c'est le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique. Aujourd'hui, donc animatrice Anne-Sophie, enchantée. Autour de moi, il y a Loïc Mabili, qui va interpréter du coup un personnage qui s'appellera Joss. À ma gauche, il y a aussi Jean Lacroix qui sera le personnage de Dan. Il y aura aussi Pauline Thirault qui jouera Marilyn. Et on a aussi Léa Good qui est aussi à la technique, qui jouera le personnage de Kate.
Bonjour.
Et enfin, je vous présente Eva Natalia Grenier, qui est autrice du texte que nous allons lire, qui s'appelle Showbiz. Eva, qui est aussi comédienne et metteuse en scène. Eva, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pour me présenter, je préfère un peu plus présenter le texte que mon parcours.
Bah, vas-y.
Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 15 ans que je suis dans le spectacle, que j'ai autant participé en tant que comédienne, en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène, en tant que chargée de production, en tant que chargée d'événements, billetterie, en tant que... Voilà, le spectacle, c'est un peu ma vie. Un peu partout. Et là, en ce moment, en fait, je me concentre un peu plus sur l'écriture, en tout cas dans ce qui est la partie artistique de ma vie. Et sur l'écriture de Showbiz, je peux un peu plus expliquer. En fait, moi, j'ai fait une première création qui s'appelait Ophélie Génération Y, il y a 4-5 ans. C'est un laboratoire qui a pris forme pendant 3 ans et qui a pris une forme spectaculaire à la fin. Et le questionnement que j'avais dans ce spectacle, c'était autour de notre génération. Parce que moi, je suis née en 85 et je fais partie de ce qu'on appelle la génération Y. On est une génération qui est clairement en perte de repères et c'est quelque chose que j'aurais travaillé dans Showbiz, qui est du coup mon deuxième texte. Pour Showbiz, je me suis concentrée sur plusieurs choses. En fait, je me suis inspirée du théâtre symboliste où on part d'une réalité très concrète, puis l'onirisme va prendre part et être la source de la résolution. Puis il y a aussi le mouvement In Your Face, qui est un mouvement des années 90 avec Sarah Kane et Raven Hill. Donc il y avait une émission, je crois, qui a été faite là-dessus.
Ouais, c'est ça. Vous pouvez retrouver dans les podcasts du blog.
Et du coup, ils utilisent la violence verbale pour faire prendre conscience de la violence du monde à l'heure contemporain. Et c'est un mouvement, moi, qui fait profondément partie de mes références. Dans ce moment, il y a souvent des personnages qui sont à part. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on rassemble des personnes qu'on considère hors système et qu'on utilise leurs stéréotypes? Moi, dans Showbiz, j'ai essayé que ces stéréotypes soient mis en place dans un premier temps, puis déconstruits dans la deuxième partie du texte. Et c'était ma règle du jeu. C'est aller sur des stéréotypes super forts de masculinité, de féminité, puis dénoncer leur utilisation. Dans cette deuxième partie aussi, il y a tout le symbolisme qui est pris en charge par la confrontation des réalités des personnages. C'est le lecteur, le spectateur du coup aujourd'hui, l'auditeur qui a le choix de croire en plusieurs versions et d'aller vers la réalité qui lui plaît. C'est sa propre résolution à lui en fait. C'est ça que j'ai voulu travailler dans Showbiz. Et en partant du constat que moi je suis d'une génération où il n'y a plus de modèle de réussite, plus de certitude, vers quoi on se penche, comment on fait pour vivre ensemble. Il y a chacun qui vit dans sa réalité et comment on fait pour communiquer.
Et alors justement, les personnages là, on en a 4 qui sont présents dans le texte, qu'on va lire là. Du coup, c'est qui à peu près? Est-ce que tu peux placer un petit peu là-dessus?
Alors en fait, moi, pour chacun des personnages, je me suis inspirée d'une histoire vraie. C'est le début de carrière d'une rockstar anglaise de notre génération, parce que je crois que nous sommes tous ici présents de la génération Y. Donc je me suis vraiment basée sur la vie de cette personne-là et du début de son groupe comme prétexte dramatique pour ensuite derrière aller questionner tous les
la sphère sociologique aujourd'hui, ce que notre génération traverse,
voilà tout ce qu'il y avait autour. Et donc c'est quelqu'un qui avait une mère qui était médium, qui était peintre en bâtiment au début de sa carrière, qui vivait avec un coloc qui était complètement défoncé, qui était calmé tout le temps et qui
un grand romantique
qui était un grand romantique
Okay.
Et du coup, à travers ça, j'ai créé cette dramaturgie-là. Je me suis inspirée du mouvement de Mott, qui est un mouvement aux États-Unis où, où chacun prend la parole. En fait, c'est pas forcément des artistes. Ils se rassemblent dans une soirée et chacun raconte une histoire. Mmh. Et ça, c'est très présent dans l'écriture parce que vous allez voir à chaque moment, chacun des personnages va raconter
sa vérité.
Ah. Va raconter. Pour moi, c'est important de raconter des petits détails qui font l'histoire, en fait.
La multiplicité des visions, ouais.
Donc là, en fait, on va lire une version coupée du texte. Mm-hmm. J'ai enlevé deux personnages, qui sont les personnages des deux autres membres du groupe, qui du coup ne participent pas à cette lecture-là. Et c'est une version coupée, on a enlevé à peu près un tiers du texte.
Mm-hmm. Ok. Très bien. Tout le monde est prêt?
Ben oui.
Eh ben, on va donc commencer cette lecture de Showbiz. On se retrouve plus tard.
Showbiz, texte d'Eva Natalia Grenier, théâtre, pièce en trois actes. Personnage, Joss, homme, 17 ans, peintre en bâtiment et auteur-compositeur, lu par Loïc Mabili. Dan, homme, 29 ans, rentier, colocataire de Joss, lu par Jean Lacroix. Marilyn, femme, 35 ans, voyante, mère de Joss, lu par Pauline Thirault. Kate, femme, 16 ans, étudiante, muse de Joss, lue par Léa Good. Et les didascalies sont lues par moi-même, Eva Natalia Grenier. Acte 1, scène 1. Un salon. Il y a un canapé en cuir qui a coûté très cher. Il est brûlé par endroits. Il est très sale et deux plaides en polaire traînent dessus. Il y a une table basse très classe dont on ne distingue plus rien sous les amas de canettes de bière, de belles bouteilles de vin, de seringues, bangs, journaux, paquets de chips mexicaines et boîtes de tarama à moitié vides. Joss coupe des légumes et Dan trie des journaux. Il passe de la table basse au bureau. Les deux boivent régulièrement une gorgée. Bière pour Joss, vin rouge pour Dan.
Je mets du paprika.
Je veux bien, ouais, c'est gentil. Tu vas mettre du paprika dans les poivrons ?
Si ça te va.
Ça me va, c'est gentil, Joss. T'es si gentil, je suis content que t'aies eu cette idée, merci. Joss, t'es le roi pour ça. Tu devrais être cuisinier, faudrait que t'arrêtes de cuisiner pour un camé, tu perds ton talent. J'ai plus rien dans la bouche, c'est du papier. J'aime que tu fasses l'effort, mais sincèrement, je crois que je verrai pas la différence. J'aime ça quand tu prends soin de moi, Joss. On peut arrêter la musique ? J'adore, hein, c'est pas que... Mais ça me met en flip, c'est... grandiloquent. C'est que t'aimes ça toi Joss, mais moi là tu te rends pas compte, les gens jettent des bombes et ils prennent des armes, ils prennent de l'acier, ils mettent l'acier dans le corps des autres, c'est dingue. Ils mettent un mélange de fer et de carbone en nous et comme ils le font violemment, ça déchire tout en toi, putain Joss. Mais baisse la musique. C'est tout petit en vrai, c'est la vitesse à laquelle ça va dans ton corps qui fait que ça te tue ou ça te fait mal. Puis dans ta chair, il y a du fer et du carbone.
Tu veux que je mette du fer dans les poivrons?
Putain. Rigole pas avec ça, c'est dangereux, putain. Je sentirais même pas le goût. Si tu mets du fer dans la nourriture, je le sentirais pas, Joss. Je t'ai dit, j'ai plus de goût, putain. Mais tu veux m'empoisonner? Joss, tu veux me faire bouffer du fer?
Dan, je riais. Dan, c'était une blague. Je vais pas mettre du fer dans les poivrons, je faisais une blague, détends-toi, respire. Je vais pas mettre de fer dans les poivrons, je vais mettre du paprika. Tu sentiras pas le goût, mais ce sera pas du poison. Dan, lâche-moi, je vais mettre les légumes au four.
Faut pas rire avec ça, tu sais. Faut pas rire avec ça, putain.
Dan, j'ai la polenta qui va cramer, lâche-moi.
Putain, Joss, j'adore la polenta, t'es le roi, Joss, mais faut pas rire avec ça. Bon, je vais dans ma chambre, tu m'excuses, hein, je vais pas manger ce soir, tu m'excuses.
Scène 2. Dans la chambre de Dan, il y a un lit et des vêtements dans des sacs de sport.
Je suis prêt à partir, je vais aller loin. Ils veulent tuer ma civilisation, ils veulent ma destruction, que je sois plus là. Je les laisserai pas faire, je vais avancer, les piéger, je vais prendre des chemins de traverse et courir dans le vent. Les feuilles ne tomberont plus après mon passage et la sève coulera en continu, elle sera toujours là, elle remplira tout. Les montagnes ne tomberont plus, on n'aura plus froid. J'en appelle aux armes, j'en appelle aux armes, je veux plus qu'on pleure et qu'on se trouve délicat dans les moments de faiblesse. Je veux qu'on aime la grandeur et je veux faciliter notre chemin. J'ai un crâne, il couvre mon cerveau, j'ai une mémoire vive. J'avance en regardant droit devant. Vous connaissez la mer ? Elle est bleue, elle est liquide, elle fait des vagues et la lune l'appelle de temps en temps. De temps en temps, elle s'échappe, elle est profonde, elle noie les gens. Ça fait longtemps maintenant que je vous ai pas vu sourire et je veux parier sur le temps. Je vais parier que vos lèvres s'entrouvriront. Il y aura des commissures et vous aurez beaucoup de rides. Grâce à moi, vous aurez de belles rides. Vous pourrez dire que vous avez beaucoup ri. Ils veulent tuer mon crâne, qu'il n'existe plus. Ils veulent de la chair et des os partout. Ils veulent une pièce blanche avec des éclats de partout. Ils veulent plus que je pense. Ils veulent plus de moi. J'ai plus de goût. Mais je vais pas me laisser faire. Je vais pas les laisser me faire un lavage de cerveau. Moi, je vais avancer. Moi, je vais faire couler la sève et la lave. Je vais trouver la recette et je vais aller dans les volcans. J'ai un ami en Auvergne. Il m'a invité pour que je creuse le trou dans les volcans morts. On va tout faire revivre. On va vous faire sourire et vous allez retrouver la joie. Je veux vous voir heureux. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été heureux? Que le sang n'a pas jailli, que vos yeux se sont pas plissés, que votre bouche s'est pas entrouverte et que vous avez pas ri un bon coup? Un éclat? Imaginez-moi. Imaginez-moi dans une salle blanche. Toute propre. Je suis le seul et je suis assis sur une chaise. Autour de moi, il y a des gens. Ils sont invisibles. Vous pouvez pas les voir et ils me posent des questions. Ils me prennent le lobe de mon oreille entre leurs doigts et ils pincent. Ils frottent d'abord délicatement, puis ils se rapprochent de plus en plus la pulpe de leurs doigts et mon lobe brûle. Ils tirent, ils ont pas coupé leurs ongles depuis des mois, putain, les ongles raclent et me griffent et les gens que vous voyez pas me posent des questions. Ils veulent savoir pourquoi je respire. Pourquoi je respire alors qu'eux ils savent pas faire. Ils m'envient, ils font exploser mon crâne et j'ai du sang qui coule. Leurs griffes ont ouvert ma peau et j'ai une boucle pendante de sang rouge. C'est du rubis plus beau que les plus belles pierres. Je pense à l'Auvergne et au volcan et je me dis qu'ils connaîtront jamais mon secret. La lave qui est en moi et qui est celle qui est dans ma terre. Ils veulent nous tuer mais nous serons les plus forts. On est tout petits, on est tellement simples. Ils peuvent pas croire que nous y arriverons, qu'on se sauvera. Ils se demandent comment on fait, comment on fera. Je leur réponds pas. Je reste stoïque et je suis fier de nous. On va rire. On va continuer et ils nous aurons pas. J'ai les oreilles solides, vous inquiétez pas. Elles sont solides, celles-là.
Scène 3. La cuisine de Marilyn, la mère de Dan. Une petite cuisine de campagne où le rouge et le vert prédominent sur les boisures des meubles. Il y a un amas de vaisselle dans le lavabo. Marilyn et Joss sont assis l'un en face de l'autre, un café à la main.
J'ai ouvert la boîte aux lettres ce matin. Il y avait des tas de prospectus. Moi, je sais plus quoi faire. Ils n'arrêtent pas.
Tu peux mettre un autocollant pour qu'ils arrêtent de mettre de la pub.
Ah oui?
Ouais, stop la pub ou quelque chose dans le genre.
Ah bah, ça me plairait. Mais tu sais où on peut en trouver?
Sur le net, je pense. Des sites de lobby écologiste. Ou parfois, peut-être même, je crois qu'ils en mettent dans les boîtes aux lettres pour aider les gens.
Ils mettent des pubs anti-pub dans les boîtes aux lettres pour qu'on évite de mettre de la pub dans les boîtes aux lettres.
Ouais.
Ce matin, il y avait un chèque de ton père. Alors, j'ai pas eu le temps de le déposer. Je te donnerai le liquide cet après-midi.
T'es pas obligée, maman. Je m'en sors bien.
Laisse-moi faire ce que je veux.
C'est quoi cette musique, maman?
C'est du pansori. C'est coréen. C'est Sung-hee au travail. Elle est venue pour une séance. Elle m'a raconté les cérémonies chamanes coréennes. Ça s'appelle les guttes. Le pansori, à la base, c'est les chanteurs qui accompagnent les chamans en Corée. C'est devenu un vrai art. Ils racontent les histoires du passé, ils invoquent les dieux. T'entends comme elle chante? Ils vont jusqu'à se saigner les cordes vocales pour y arriver. Aujourd'hui, les gouttes continuent pour le quotidien et le pansori est devenu un art à part, un art presque noble. J'ai parlé à Sung-hee de la maison qu'elle accueillait les esprits. Sa grand-mère est Mudang. Elle m'a apporté le CD. Elle m'a dit que quand sa grand-mère viendrait en vacances, elle fera faire une cérémonie dans la maison. Pour la purifier. Pour la cohésion avec leurs esprits et les miens.
J'aime bien le rythme. Je ferai écouter à Karl.
Ah oui, comment va-t-il? Mais j'ai croisé sa mère hier. On n'a pas eu le temps de parler de vous. Bon, j'étais si pressée.
Je ne l'ai pas encore vue depuis la dernière fois. Et le téléphone, c'est... j'aime pas trop ça. Avec le travail, c'est dur, je suis fatigué. Revenir ici, je peux pas tout le temps. Je le vois demain pour la répète.
En fait, je te mens. Enfin, en fait, on s'est parlé. Elle m'a dit qu'il avait une nouvelle copine.
Ah ouais?
Oui, sa mère me l'a dit. Mais je voulais te tirer les vers du nez. Pour qu'on parle des filles. Je te faisais croire... Je veux que ça vienne de toi. Pourquoi je dois toujours te piéger ?
Maman, je parlerai pas fille avec toi.
Mais tu sais que de toute façon, ta grand-mère me répète tout.
Maman, je t'ai dit d'arrêter de lui demander. Je veux pas savoir.
Mais si tu me dis rien, moi, je m'inquiète. Moi, je veux que tu sois heureux. Mais je sais pas. Tu me racontes pas. Tu viens, là. Tu viens parce que demain, t'as répète et que t'as daigné venir dormir chez ta mère. Mais je sais plus qui tu es, qui tu deviens. Mon garçon, ça fait 6 mois que tu es parti et je te vois plus. Je te sens plus, tu es loin. Moi, je veux savoir. Alors, je demande là où je peux. Je veux te sentir. Tu vas devenir une star et je te verrai encore moins. Je veux pas tuer le lien. Je veux que tu continues de m'aimer comme mon petit garçon, que tu aies besoin de moi, que tu me racontes les choses. Joss, ton frère, il me raconte. Hein? Pourquoi tu fais le mystérieux ? Tu sais que tu peux pas me cacher. Tu fais tout pour que je te sente plus, mais tu sais que je peux savoir autrement. Je veux juste que tu m'appelles. Le téléphone, t'aimes pas ça, je sais, mais fais des efforts. Tu crois que j'en fais pas, moi, des efforts pour toi ? Que je me retiens pas ? Tu deviens adulte et il faut que tu fasses attention aux autres. Il faut que tu fasses attention à ta mère. Je suis importante pour toi. Je suis là et tu sais ce que je demande. Je veux juste entendre ta voix de temps en temps. Ou tu peux m'écrire une carte postale, hein, tu peux faire ça. Et une carte postale. T'en achètes une au kiosque, sur le chemin du travail, tu m'écris « Maman, je vais bien » ou « Maman, je vais mal ». Puis tu mets mon adresse, hein, tu la connais. Tu peux même demander au marchand du kiosque de te coller le timbre sur la carte, puis de l'envoyer. Ils le font, hein. Ils font ça pour les gens parfois. Et moi, je vais à la boîte aux lettres et je trouve pas de la pub ou des chèques de ton père, mais je trouve une carte de toi. Avec un chien. Oh, une carte super moche où il y a un chien avec des oreilles qui tombent. Et le chien, il bave et il y a marqué des trucs en fluo dessus. Ou une carte avec la mère. Enfin, ce que tu veux, te prends pas la tête. Prends la première que tu vois dans le kiosque et tu me l'envoies. Tu peux même juste écrire ton nom derrière.
Maman, ça me fait plaisir de te voir là. Je suis content d'être là. Je suis content que Sungi du travail te fasse écouter de la musique, qu'elle invite sa grand-mère ici. Et je viendrai pour la cérémonie.
Je sais que tu viendras. Bah, tu sais, ta grand-mère m'a dit.
Je veux pas savoir.
C'est important, écoute-moi.
Maman, laisse-moi faire. Tu peux pas tout contrôler comme ça. Laisse mamie tranquille, s'il te plaît. Lui pose pas de questions sur moi. Je veux pas savoir. J'en sais déjà trop. Comment je vais faire pour avancer ? Pour me faire surprendre si je sais tout ? La surprise. Je marche et je sais pas sur quoi je vais tomber. Je marche et je regarde les arbres. Je regarde les oiseaux sur les branches, ils se font des bisous. Je regarde en l'air et je trébuche. Le bout de ma basket frotte un trou sur le sol. Un trou qui s'est fait parce qu'il y a une racine de l'arbre qui a poussé le béton. Et moi, le bout de ma basket, il frotte ce trou. Ça me déséquilibre. L'énergie, elle va direct de mon pied à mon cœur. Et il bat très fort. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Qu'il y a un accroc. Et je panique un peu pendant quelques secondes. Je sais pas quoi faire, mais je suis un être humain, alors oui, ma cheville, elle va se déplacer, elle va tirer sur un tendon un peu fort, mais je vais me rattraper parce que j'ai des réflexes. Peut-être que ma figure, elle va tomber sur le goudron à côté du trou et ça frottera ma peau et j'aurai du sang sur ma joue, un peu, une griffure de béton. Et mon coude y rebondira et le sang éclatera un peu dans mes veines, j'aurai un bleu. J'aurai mal pendant quelques temps, j'irai chez le kiné pendant des mois pour que ma cheville aille mieux, que mon tendon il se détende. Mais je serai content, parce que c'est la nature qui m'aura fait tomber. C'est un arbre qui a gagné sur le goudron, sur l'homme qui essaye de contrôler la route. Je veux des traces de la vie sur moi, maman, j'en veux. Me préviens pas qu'il y a un trou. Me préviens pas.
Non mais tu t'es fait mal, t'es tombé ? Joss, enfin tu vas chez le kiné ? Tu sais que la mutuelle ne rembourse pas, hein ?
Maman !
Donc... Tu vas rencontrer une fille.
Maman.
Ça va tout changer. Ça y est, Joss. On y est. Elle est là. Tu peux pas y échapper, Joss. C'est ta muse. Elle est là. Elle est arrivée. Elle arrive. Hmm? Ta grand-mère me l'a dit. Pars, Joss. Pars pas, non. En fait, tu peux pas m'en vouloir, mais... Enfin, je dis pas tout, là. Il y a de grandes choses qui arrivent. Je retiens des choses. Je te jure, je te protège. Il n'y a pas que toi. Nous tous. Nous tous. Mais pour toi, ça va être beau. Tu verras, tu m'en voudras plus après. Tu verras que je garde des choses pour moi. Hein. Allez, embrasse ta mère avant de partir. Mais me laisse pas toute seule ici.
T'es pas toute seule ici, tu le sais. Du monde, il y en a. Il y en a beaucoup du monde ici. Je vais dormir chez Karl ou chez Sam. M'attends pas, je t'enverrai une carte.
Tu vas dormir ici ce soir?
Non, je dormirai pas ici.
Acte 2, scène 1.
Karl devait m'appeler. Faut que je regarde si j'ai un message. Il y a ces questions de moments dans la vie, vous savez. Quand j'étais petit, j'étais pas différent des autres petits garçons. Je me fondais dans la masse et je m'amusais beaucoup. Mais l'été, quand il n'y avait plus l'école, et que je me retrouvais sur les pontons, sur les bords de plage, j'étais envahi par la mélancolie. Je savais pas que c'était la mélancolie, on n'a pas conscience de ces choses-là quand on est petit. On a honte, on veut pas en parler. Tout le monde court sur la plage, et toi tu restes assis et tu veux pas bouger. Tu veux regarder et laisser les idées filer dans ta tête. Tu veux te faire border par l'eau, et tu veux pas te faire arroser. Tu veux pas lancer la balle, tu veux être toi, pas un petit garçon comme les autres. Tu regrettes des choses que ta mémoire peut pas te permettre de retrouver. Tu peux pas te souvenir de quand t'étais à l'intérieur, de quand t'étais au sein, de quand ta vue est devenue de moins en moins floue et que ta tête, elle tenait pas toute seule. Tu peux pas te souvenir de la première fois où t'as mis un pas devant l'autre. Tout ce qui met ton corps en route, toi t'en as pas d'image. On te raconte et t'es obligé de croire à leur version. Le moment où tu as mis un pas devant l'autre, on sait ce qui arrivera. Tu tomberas un peu, tu choisiras de rester à quatre pattes pendant un moment. Puis quand t'auras choisi de te faire confiance, que tu te dis que ça y est, que tu peux le faire, t'as les muscles, t'as la force, et t'es pas moins bête qu'un autre, bim. Un pas devant l'autre, on ne tient plus, plus de main, plus de table, tu avances. En ce moment c'est ça, c'est un peu un pas devant l'autre. Je sais que je dois rester ici, c'est ma table basse. Je dois m'appuyer sur ma table basse pour prendre de l'élan, pour marcher et que la mélancolie puisse revenir. Je me débrouille bien, je peins des bâtiments, des extérieurs et des intérieurs, ça m'occupe, j'aime ça. Pour attendre, c'est parfait. La peinture, ça me vide le cerveau, c'est une sorte de plénitude. Tu sais, tu pars de chez toi, tu as bu ton café, il est tôt. Si c'est le premier jour de chantier, il faut que tu passes au local pour prendre le matériel qui a été préparé pour toi. On te laisse une voiture pour le transporter, des fois t'es tout seul, des fois t'es plusieurs. Mais moi, on me laisse pas encore seul. Je suis souvent avec Simon. Simon, je l'adore. Il a des cheveux frisés, un petit bide, et quand il parle, c'est du miel. La douceur dans un homme, il est d'une délicatesse. C'est lui qui m'a tout appris, j'ai l'impression d'être un marshmallow quand je suis avec lui. Un marshmallow en jachère. On renouvelle les murs, on les fait passer à autre chose. Les gens veulent du neuf, changer d'air, et nous on plaque leurs envies. Moi je m'appuie sur eux, passer d'une envie à l'autre, de maison en maison, c'est la vie douce avant que ça arrive. Avant la récolte, je suis en jachère. Un être humain c'est comme les terres. Une fois qu'il y a eu une récolte, il faut qu'il respire, qu'il prenne l'air, pour repartir comme neuf la saison d'après. Une terre que tu retournes pas, que tu reposes pas, sur laquelle tu plantes graine sur graine, elle te donne pas des bonnes choses, elle étouffe. Je sors des études, je viens d'être bourré de sens, de savoir. Il faut que je digère, que je me mette de côté pour la mélancolie. Faut que j'arrête de courir après les autres pour mieux revenir. Avec Simon, on aime aussi se boire du bélaise. On le dit pas trop, les autres gars se moqueraient de nous. Mais on boit notre bélaise tous les jours, en chantier avant de rentrer. Il le cache dans la sacoche de sa chaîne, avec deux petits verres en métal. Ça aide d'arroser les terres avec le bois en engrais. Ça aide.
Scène 2. Une pièce vide avec des murs où l'on a enlevé du papier peint. Il y a un canapé bâché et du matériel au sol. Une fille rentre avec une théière, deux tasses et des petits gâteaux. Elle ne sait pas où les poser. Alors elle va au sol et lorsqu'elle commence à servir le thé, Joss rentre dans la pièce avec du matériel.
J'ai mis du temps à trouver un sachet de thé. Tout est si bien rangé ici, il y a tellement de placards.
Je vois que vous avez trouvé les gâteaux.
Non, ceux-là je les avais pris avec moi dans le train. J'ai toujours peur d'avoir faim quand je suis en déplacement. Puis comme je connais pas bien ici, je m'étais dit, j'aurai au moins ces gâteaux.
Merci, c'est gentil. Vous avez bon goût, j'aime bien ceux au gingembre.
C'est mes préférés, ils sont doux et vifs à la fois.
Ouais, je les trouve très connectés, Enfin, je veux dire, ils font appel à des endroits en nous où on est tout de suite connecté à un souvenir, à une émotion. Je saurais jamais dire laquelle, mais c'est très fort.
Des cookies d'émotions. Ouais, je vois exactement ce que vous voulez dire. La prochaine fois que j'en mangerai, je penserai sûrement à vous, du coup. Non, pardon, c'est minable. Ça fait genre, je vous drague, je voulais pas.
Non, j'ai compris ce que vous vouliez dire.
Non, c'est pas que je veux vous draguer, enfin, c'est pas que je veux pas vous draguer, mais enfin, bon. Je m'enfonce, arrêtez-moi, il faut plus que je parle, je suis affreusement gênée.
Joss ne sait pas quoi faire, il prend un gâteau et lui met dans la bouche. Il y a un silence, elle récupère le gâteau, boit une gorgée de thé et le mange.
Merci.
Pardon, j'ai été un peu brusque.
Non, c'est ce qu'il fallait. Sinon, j'aurais continué de parler.
Vous êtes agréable quand vous parlez. Vous voyez, moi aussi, je me lance dans la drague de bas étage pour que vous vous sentiez plus à l'aise.
Je vous remercie pour ces efforts.
Je veux pas vous faire peur, mais je peux pas le garder pour moi. Je savais que nous allions nous rencontrer.
Wow, vous êtes fort en drague nulle. On peut s'arrêter là, ça y est, je me sens moins gênée.
Non, on m'a dit que vous arriviez. Je suis ici pour une raison et il y a un débranchement qui va tout faire avancer. Et c'est vous. La lumière qui jaillit. Vous êtes très belle. Je m'attendais pas à ce que vous soyez si belle. Je m'attendais à rien, je voulais pas savoir. En vrai, je ne voulais pas vous rencontrer. J'ai pas voulu entendre.
Joss, votre patron vous a dit que je serais là. Je l'entends et peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des clientes de mon âge. Mon oncle est décédé sans enfant. Je suis la seule à avoir pu me libérer pour s'occuper de la maison. Mais je suis pas certaine de vous comprendre. Les sachets de thé étaient bien rangés. Mon oncle est très, très méticuleux. J'aimais ça en lui. Il aimait que tout soit en ordre. Il avait été militaire dans la marine. Il avait son bonnet avec son pompon quelque part dans la maison. Je sais qu'il est toujours là. Je sais où il est. Je le rangerai avec le reste, plus tard. Je n'ai pas encore tout fait, je viens d'arriver. Avec ma sœur et mes cousins, on allait souvent dans sa chambre, lors des vacances familiales dans cette maison. Il y a des trésors dans la chambre de mon oncle. Nous avions peur quand nous étions, s'il découvrait qu'on était dans sa chambre, ça allait mal se passer pour nous. Il nous a jamais attrapés. Il était bien trop occupé au rez-de-chaussée, entre la cuisine et le salon. Ou bien peut-être faisait-il semblant de ne rien savoir et il nous laissait la distraction de l'étage, du cœur qui bat pour l'interdit. On fouillait tous dans ses armoires pour regarder les décorations, les habits officiels, les chapeaux à pompons. Celui-là, c'était notre Graal. Je suis la seule à avoir trouvé les lettres et les photos. Mon oncle aimait un homme, James. Il s'aimait très fort. James était en charge de la maison d'une famille d'aristocrates à 60 km d'ici. James est décédé il y a un an. Leur vie privée était compliquée. Je devine aujourd'hui qu'elle devait être compliquée. Il était devenu triste et il buvait. Mon oncle ne le supportait pas. Lui, il aimait la vie et ne pouvait pas s'imaginer la détruire. Depuis sa retraite de la marine, il travaillait au port comme chauffeur de ferry pour aller sur l'île. C'était un bel homme, d'une classe incroyable. S'il y a un espace où on va après notre vie, lui et James doivent être en train d'être réunis. Ils doivent se voir tous les jours. Je suis contente pour eux. J'imagine ce que c'est l'amour et le quotidien qui l'accompagne. Si on ne le vit pas, l'amour, ce n'est que de la passion. Quand tu vis avec la personne aimée, c'est là que la réalité peut avoir lieu. James et mon oncle, je voyais dans les lettres, ils n'ont pas pu découvrir le quotidien et la réalité de leur relation était celle d'hommes qui s'aiment de loin. Un amour véritable, mais un amour du fantasme. J'ai appris l'amour avec leurs lettres. Et aujourd'hui, leur histoire, elle me coûte des déboires. Je crois que tu fantasmes souvent quand tu es amoureux. Tu vois trop de belles choses. Et les mauvaises, celles qui tiquent, elles ne sont là quand l'autre est toujours là. Je me dis ça. Je suis contente qu'il y ait encore du thé dans la maison. Mon oncle est décédé après avoir fait les courses, le frigo est plein. Faut que je le vide. Certaines choses sont déjà en train de pourrir, les choux, les yaourts. Personne d'autre n'a pu venir. L'enterrement n'a pas eu lieu ici. Il a eu lieu là où tout le monde a grandi. J'ai grandi et je suis ici, la gardienne de cette maison. Je suis si jeune. Je ne devrais pas avoir à gérer ça. Vous ne trouvez pas, Joss? Je suis si jeune. Ranger les affaires d'un homme que j'ai tellement aimé, nettoyer sa maison, vous accueillir. Quelqu'un d'un âge mûr devrait faire ça. La maison est à moi maintenant, il me l'a laissée. Je sais pas pourquoi il m'a choisie parmi les autres. À cause de James sûrement. Nous en parlions beaucoup. C'était notre secret à nous. Il m'emmenait au travail avec lui lors de nos séjours ici. Et pendant qu'il conduisait les ferries, nous parlions de James. Je ne l'ai jamais rencontré, James.
Vous allez faire quoi de la maison ?
Je sais pas. Je vous la fais peindre déjà. Déjà, elle peut pas rester comme ça. Il faut qu'elle change.
C'est Kate. C'est la fille. Elle est là, ça y est. C'est une rencontre à l'eau de rose. Vous n'avez pas eu l'impression de vivre une scène de série B ? Je pensais que ce serait plus fantastique. Je la trouve très belle. Et je sais que c'est elle. Mais je me retrouve comme un con avec elle alors que je sais qu'on va vivre des grandes choses. J'ai essayé de lui dire. Je comprends qu'elle veuille pas comprendre. Je peux pas lui en dire plus, elle aurait peur. Moi, à sa place, j'aurais peur. Je déteste quand ma mère fait ça, qu'elle me dit que ce qui sera important, ce qui ne sera pas. Elle sait les choses avant tout le monde, elle a ce don. Elle parle aux disparus, surtout avec ma grand-mère. Mamie est devenue une vraie pipelette depuis qu'elle est dans l'au-delà. Elle a dû croiser ce James ou l'oncle de Jane, et ils se sont mis d'accord. Je connais rien de Jane, je ne sais pas qui elle est, ni ce qu'elle fait. Ce que je sais, c'est que je l'ai rencontrée dans cette maison et que je bande quand je l'imagine nue. Je veux la toucher. Je veux qu'elle revienne de la cuisine et la sentir près de moi. Et merde, le destin est en marche.
Scène 3. Dans le salon des garçons. Toujours le même canapé sale, les mêmes paquets de chips, boîtes de tarama à moitié vides sous les amas de canettes de bière et de belles bouteilles de vin. On sonne à la porte. Dan approche, mais n'ouvre pas.
Qui êtes-vous ?
Bonjour. Vous devez être Dan ?
Ouais. Et vous, qui êtes-vous ?
Je suis Marilyn, la maman de Joss. Je viens voir si tout va bien, je veux vous poser des questions.
Qu'est-ce qui me dit que vous êtes bien la mère de Joss ?
Vous avez une arme ? Posez ça, mais... Enfin, posez ça, vous n'en avez pas besoin.
J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes la maman de Joss ?
Mon garçon, raisonnez un peu. Regardez-moi, voyons. Ouvrez cette porte. J'ai envie de me poser dans un canapé et j'ai besoin d'aller aux toilettes.
Vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment ?
Oui, en ce moment, il se passe plein de choses, des choses abominables. Je vous assure que je ne les accompagne pas. Je lutte contre elles et je lutte contre l'abominable. Regardez-moi, je fais partie de l'autre mouvance, vous le voyez bien ? J'ai des collants, j'ai un décolleté, j'ai de la bière dans mon sac, pour vous et pour Joss. Dan, ouvrez-moi, soyez sage. Je vous comprends, mais soyez un peu judicieux.
Vous me rabaissez, madame. Vous me parlez comme à un enfant et vous croyez que je vais vous écouter. Vous êtes une mère. Oui, ça j'en doute pas. Mais vous n'êtes pas la mienne. Et si vous êtes celle de Joss, j'espère que vous lui parlez pas comme vous venez de le faire. Vous êtes condescendante et vous pensez que votre âge, votre expérience de vie donne à votre parole un poids plus fort que ma pensée et que je dois vous écouter, que je dois baisser ma vigilance pour votre âge, vos arguments et votre intonation. Madame... Vous ne réglerez pas vos problèmes comme ça. Vous avez grandi en éduquant des jeunes gens. Ça, je veux bien vous croire. Vous avez sorti de vos entrailles des personnes, vous les avez couvées, et avec votre douce voix, peut-être leur avez-vous chanté des comptines, vous les avez accompagnés à l'école, vous avez pleuré en voyant qu'ils pouvaient passer une journée sans vous. Puis vous avez apprécié de pouvoir redevenir une femme, une amante. Vous les avez suivis tout au long de leur début de vie, vous étiez là. Vous devez être une bonne mère, et sans vous, ils ne seraient pas les êtres humains qu'ils sont. Si Joss est votre fils, vous avez réussi votre coup. C'est un garçon que j'aime. Il est formidable, il a de grandes qualités et ses défauts sont les névroses de notre temps. Mais madame, vous pouvez plus parler comme vous le faites. Nous ne sommes plus des enfants. Nous vous comprenons quand vous parlez et le miel que vous mettez à vos paroles vous rend aujourd'hui grabataire. On veut plus vous entendre comme ça. Nous vivons et des expériences nous en avons fait. Elles valent bien les vôtres. Si je choisis aujourd'hui de garder cette porte à moitié ouverte, j'ai mes raisons. Et c'est pas votre condescendance de mère, votre ordre établi qui me le fera ouvrir. J'ai peur. Et votre conti ne me rassure pas. Vous avez de la bière, c'est un biberon qui me rassure. Mais il vous rendra pas plus doux. Il m'endormira pas. Vous avez des collants à décolleter et je vous trouve belle avec vos atouts. Je vous regarderai comme une femme si vous ne vous comportiez pas en mère. Vous êtes l'inconnu qui frappe à ma porte. Et cet inconnu me fait peur. Je me prépare contre lui et je veux combattre les pièges. Nous sommes en danger, vous le savez, et j'ai choisi la peur, la protection. Je travaille pour notre bien et je ne veux pas que vous me dérangiez.
Dan, vous parlez très bien. Et j'entends ce que vous me dites. J'ai vraiment besoin de m'asseoir. J'ai fait un long voyage. Je ne veux pas vous déranger. Je venais juste pour Joss. Je sais qu'il va rencontrer la fille et je voulais en parler avec vous.
Il a rencontré la fille ?
Oui. Elle est en ville et je voulais savoir s'il vous en avait parlé. J'ai questionné Carl et Sam. Pour le moment, ils ne savent rien. Mais c'est en marche, Dan. Il faut que nous en parlions.
Il va me laisser ?
Dan ouvre la porte.
Et je sais pas.
Vous savez de quel camp elle est ?
Je suis pas sûre de vous comprendre.
La fille ? Est-ce que c'est l'inconnu qui va tout changer ?
Elle va changer beaucoup de choses.
Qui l'envoie ?
Je ne sais pas. J'ai idée que c'est le destin.
Le destin est un bon prétexte. Elle ne peut pas arriver maintenant par hasard. Il faut qu'il y ait une raison.
C'est le moment, Dan. On sait qu'il va devenir un grand homme et ça commence avec cette fille.
Vous êtes une romantique. Ils ont dit qu'ils enverront quelqu'un. Je ne veux pas qu'elle lui fasse de mal.
On ne peut rien faire contre elle. Elle est là et il l'attend depuis très longtemps.
Je veux pas qu'elle nous fasse du mal, elle va venir tout briser. Je combats le déséquilibre. Je sais qu'ils veulent que nous tombions, qu'ils nous trouvent vils et trop beaux pour exister. Joss me permet de garder l'équilibre, il me fait à manger, vous savez.
Joss est un très bon cuisinier, il a appris ça avec son père.
Je n'y croyais pas à cette histoire de gloire.
Mais vous savez, le destin existe, Dan, ce n'est pas un prétexte. Joss est le grand romantique, et il faut être là pour lui. Il se laisse prendre par les choses. Les bonheurs, il les vit sans recul. Il les prend et il se satisfait d'un rien. Il n'est pas mélancolique, il est concret. Il est là, dans le présent. Le futur ne l'inquiète pas. C'est pas normal. C'est un romantique du présent. Un garçon qui vit pleinement. Et si on ne prend pas garde pour lui, il va se perdre. Je dois aller aux toilettes, vous permettez ? Dan, enfin, je sais pas où c'est en fait. Dan, j'ai besoin de vous.
My life is changing in so many ways. I don't know who to trust anymore. There's a shadow running through my days, like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay. Just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A maid. A man needs a maid. A maid.
Scène 4. Dans le salon de Kate, les murs sont peints. Il y a des cartons partout. Kate et Joss sont dans la pièce à déballer les cartons.
Si on habitait ensemble, c'est toi ou moi qui ferais le ménage ?
C'est toi.
Ah ouais. Et je ferais à manger aussi.
Ouais. Tu ferais le ménage, à manger. Tu travaillerais pas et je serais l'homme le plus malheureux du monde parce que sa chair et tendre n'aura aucune ambition.
J'ai de l'ambition.
J'espère, parce que je cuisine mieux que toi.
J'ai de l'ambition, Joss.
Je sais.
Je pourrais pas attendre, moi.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que je n'attends rien. Je fais tout pour que ça arrive.
T'essaies de me dire quelque chose ?
Joss, tu es talentueux.
Ouais, peut-être.
Non. Tu es talentueux. Les choses ne vont pas se faire malgré toi. Il faut que tu y ailles. Tu te crois dans un livre de John Irving ? Tu crois que ta maman va tout faire pour toi ? Que parce que ta mère est une sacrée maman, nana, tu n'as pas de la place pour exister ? Que parce que ton père est mystérieux, tu n'as pas le droit d'être un homme normal ? Arrête d'attendre que ça se passe. T'es pas dans un putain de roman trop bien écrit. Joss, c'est ta vie.
Je comprends pas ce que j'ai fait de mal.
T'as pas écrit de chanson depuis combien de temps ?
J'en ai écrit plein. Depuis que t'es là, j'en ai écrit des tas. T'es là, je t'ai attendu et ça y est, ça marche. Tu te trompes, il fallait que je t'attende. Que je sois prêt, que tu sois là.
Tu peux pas me mettre tout ça sur les épaules.
Je te mets rien sur les épaules.
Si, c'est super lourd à porter.
Mais je te blâme pas, je te remercie, c'est super positif.
Just, ne fais pas semblant de pas comprendre.
Tu me fais peur, je comprends que dalle.
Et si je n'étais pas réelle?
De quoi tu parles?
Et si j'existais pas?
On vient de faire l'amour.
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pour de vrai? Que c'est pas dans ta tête?
Qu'est-ce que tu racontes?
Je suis pas réelle, Joss.
Mais t'es là, putain, je te touche, là.
On n'est pas. On n'est que tous les deux. C'est dans ta tête. Tu as pris les pilules de Dan ce matin?
Quoi?
Je sais que tu prends les pilules de Dan.
Non, j'ai... Comment?
Je n'y arrive pas, Joss.
Je te jure que j'y arrive. J'ai écrit les chansons. Demande à Carl, Sam, Kate.
Tu n'y arrives pas. Je leur demanderai pas.
C'est quoi ce délire?
Je m'en vais, Joss. C'est pas sain. Faut que t'assumes. Faut que tu y arrives tout seul. Je veux pas revenir. Le vent est lourd là-bas. Il souffle fort et il aimerait pas être dérangé tout le temps. Par les esprits des gens. Des gens qui pensent trop fort. Il y a son rythme et il veut son propre bonheur, celui qui souffle et qui va d'une oreille à une joue. Il pleure en silence et personne ne pense à lui. Il veut plus être l'esprit qui nous entoure. Il voudrait être quelqu'un, avoir une famille. Il n'en peut plus d'être à tous. Il veut une maison, un endroit où aller et se recueillir. Cela ne peut pas être l'océan. L'océan ne peut pas accueillir le vent. Il est tout frais. Ça ne peut pas être un arbre. Il y a trop peu de vie en lui. Ça ne peut pas être un appartement. Il y a trop de fenêtres. Ça ne peut pas être un enfant. Il ne se concentrerait pas assez. Ça ne peut pas être une ville. Comment les autres villes feraient sans vent? Comment la montagne ferait? Comment les nuages avanceraient? Il ne veut plus être le vent. Il veut être comme tout le monde. Mais il est indispensable. Il est indispensable et il peut partir. Il peut pas partir. Il peut pas partir, il doit rester.
Acte 3, scène 1. Dans un sous-bois, Marilyn est assise sur un tronc d'arbre. Elle a les yeux fermés et les paumes en l'air. Kate arrive.
Désolée du retard.
Oh, c'est rien. Merci d'être venue. Tu as trouvé facilement?
Oui, j'ai suivi vos indications.
Tes joues sont bien fraîches.
J'ai toujours eu des pommettes rouges. Je les garde encore. C'est très étrange.
Mais c'est parce que tu es une belle âme. Et une fille coquette. Les jolies filles gardent leurs manières. On t'a appris à te tenir droite et à parler clairement pour que tout le monde te trouve belle et te comprenne. On n'aime pas les gens pas clairs. Les gens qu'on ne comprend pas. On veut du charme lisible. Du charme qui nous fait rêver, qui fait des demi-molles aux garçons. Je t'ai choisi pour ça. Tu as la beauté qu'on attend, celle des contes de fées. Mais tu as la goutte de charme, de différence qui fait qu'on craque. La goutte qui diffère, pas celle qui fait déborder le vase. Celle qui fait envie, qui fait que c'est mouillé et qu'on voit le verre à moitié plein. Je voulais lui en choisir une comme toi, sur qui on peut compter. Il y a d'autres filles, des diamants. Trop brutes, pas domptables. Le charme plus fort que toi. Oui, elles ont plus de charme que toi, mais elles ne se tiennent pas aussi bien que toi. Elles ne sont pas aussi belles. Elles n'assument pas, ou trop. Ce sont des... Comment on dit déjà? Des fontaines. Ah non, des... Ah. Tu sais, c'est dans la nature, c'est haut et ça tombe fort. Tu peux passer à travers et derrière, il y a des caves parfois, des cascades. Ces filles sont des cascades. L'eau qui tombe fort, c'est beau, ça fait envie. Mais il faut avoir le courage de mettre la tête sous l'eau pour en profiter pleinement. Toi, tu n'es pas une cascade. Tu es un lac, un beau lac immense, plein de charme. Qui fait qu'on a envie de se baigner, mais qu'on ne prend pas le risque de se noyer.
Madame, je ne voulais pas le faire. Maintenant, je l'ai fait et tout va mal.
Tout va bien.
C'est un bon garçon.
Je sais.
Il ne saura jamais.
Jamais.
J'ai failli craquer. Je ne sais pas si j'aurais dû vous écouter, madame. Je vous ai suivi. J'ai entendu votre voix si fort. Je vous ai senti en moi. Vous étiez si belle et si apaisante. Je vous ai cru, j'ai été curieuse. J'ai peur du malheur. J'ai peur de la solitude. Je suis un lac, un grand lac trouble. Je ne suis pas aussi claire que vous le prétendez. Non, ça je ne peux pas l'être. Je suis un être humain. Comme tous, j'ai des secrets. Je veux les garder. Je veux faire la mystérieuse, ne pas tout dire. Je ne suis pas lisse, non. Je suis forte. Kate, je veux te dire merci. Et au revoir, je te renvoie chez toi. Merci pour tout.
Scène 2.
Je me sens seule. La solitude de ceux qui ne s'aiment pas. Si tu marches dans la rue, que tu baisses la tête, tu vois le goudron, noir, brut. Tu vois les pieds des gens, les chaussures, la terre, les pâquerettes, le sable, les coquillages. Je veux sa chatte. Je veux qu'elle entoure mon prépuce. Il est là, il est encore là. Je veux bander dur et que le sang jaillisse de mes veines. Le léviateur, celui qui monte, qui se tient droit. Je veux l'insérer, qu'elle le frotte, que ça jaillisse. Je veux qu'elle tende son bras et je veux poser mon nez au creux de son coude. Je veux sentir tout. J'ai un souffle qui rend sensible. Si je souffle dessus, elle a le poil qui se dresse. Elle a le vagin qui se dilate. Elle a la pulpe qui se tend. Elle respire de plus en plus fort. Je sens que ses mains commencent à me chercher. Elle sait pas où les mettre. Et moi, je la laisse faire. J'aime la voir se perdre, devenir le plus fort, jusqu'à ce que son souffle arrive à mon lobe. Quand il arrive à mon lobe, j'ai la bite qui vire. Je la tiens plus et je fourre. Je peux plus attendre, je la veux. Je suis un petit animal tout perdu, un renard qui marche, un renard qui a été blessé. Il s'est mis dans un piège tout seul en voulant manger le bout de viande. Il savait pas qu'il y avait un piège. Il savait pas, il avançait. Dans la forêt, elle était belle, les feuilles qui recouvrent le sol, les châtaignes mangées par les daims, cueillies par des hommes. Il avançait, le renard. Il entendait les chants des hommes au lointain, avec leurs sacs en plastique et leurs mains qui enlèvent les châtaignes des bogues. Le renard, lui, il doit y mettre les pattes. Il sait pas faire comme eux. Mais il est plus malin, il est plus beau. Le renard, il croyait qu'il se promenait en forêt. Il cherchait à manger, il ne paradait pas. Il cherchait. Quand il a senti l'odeur de la viande, quand il a eu de l'acre dans son museau, quand il y a eu le sang de viande qui est venu vers lui, il n'a pas résisté, il a avancé. Il n'a pas réfléchi, et d'un coup, la douleur. L'écran dans sa patte. Il a fait vite, il a été malin, il a retiré sa patte en sautant, il a sauté. Un renard qui saute, c'est magique. Mon petit renard, que tu es tendre. Je te prendrais dans mes bras si je pouvais. T'as été courageux. Et tu marches en boitant, mais tu es toujours aussi beau. Le pelage roux et le museau doux. T'es un rescapé. Tu vas manger, ça ne sera pas de la viande. Non, ça ne sera pas du sang. J'ai fait percer les sacs en plastique des hommes. Il y a des châtaignes pour toi là-bas. Il faut que tu te rapproches du bord de la route. Fais attention à toi. Je vais te protéger. Je vais te protéger, beau petit renard. N'hésite pas à aller au bord de la route. Je vais au bord de la route et je prends le chemin avec toi. J'y vais, moi aussi. J'y vais. J'avance. Je suis un petit renard.
Le téléphone sonne. C'est Carl. Il lui apprend qu'ils vont enfin pouvoir enregistrer leur première musique.
On va enregistrer, Carl. Putain, on va enregistrer.
Scène 3. Dans le sous-bois, Kate enlève les écorces d'un arbre.
L'amour est dans l'air. C'est le bleu de la nuit dans la vallée des sentiments. La loutre qui roule et qui applaudit, qui remercie. Pour le crédit à 2%, merci. Un peu plus de tout pour moi. Le prix trop élevé, le remboursement trop lourd. J'ai jamais cru aux maladies. Je pense que tout vient de nous, qu'on fabrique tout. Je voudrais tellement rester. J'aime bien être avec vous. Je vous ai trouvé attentif et sympathique. J'aurais pas la gloire. C'est lourd à porter, faut le caractère fort qui va avec. Ça ne suffit pas, le charme. Il y a tellement d'ingrédients, tout se mixe. Les cascades s'effondrent. On les regarde, on les admire, on se dit qu'elles se débrouillent bien toutes seules. Mais c'est l'eau, c'est la terre qui s'est tranchée. C'est un chemin qui a été tracé avant elle. La cascade, elle ne s'est pas faite d'elle-même. Elle est faite de tout et on ne sait pas comment l'arrêter. Si elle voulait, on ne pourrait pas s'arrêter. Elle pourrait ne pas s'arrêter. Il suffirait que la pluie s'en mêle et elle ne pourrait pas. Elle aime les gens, les corps qui passent. Elle protège les secrets. Un lac, ça peut se transformer en cascade. Ça tombe, ça coule. Le lac, c'est de l'eau, ça circule. J'ai cru que la vie, c'était long. Qu'on m'offrirait plusieurs chances. Je ne sais pas faire la part des choses. Je mélange tout, tout le temps. C'est pas facile pour avancer. Dan est là. Je le vois, il arrive. Ils se sont mis d'accord avec Marilyn. C'est lui qui va me renvoyer chez moi. Ça me plaît. Il est très beau et fort. Et j'oublierai mieux dans des gros bras et sa rage sincère. Il est si entier, c'est admirable. Peut-être que c'est la seule chose à faire. Choisir une chose et le faire jusqu'au bout. Quitte à ne pas voir le reste, quitte à s'enfermer. Au moins, tu vas au bout. Moi, je trouve qu'il y a trop de choix, trop de possibilités, et je n'arrive pas à m'agripper. C'est pour ça que je coule, que j'ai coulé. Tu t'agrippes à des branches, au passage. Tu te fais arrêter par des berges, par une main qui essaie de sentir le courant, qui veut se rafraîchir. Tu passes entre ses doigts, et toi aussi tu voudrais sentir ta peau, tes os, tes muscles. Tu sens que le sang qui coule, il se cache. Dan, je sais que tu es là. Je t'ai vu arriver, montre-toi. Allez, viens. Dan, c'est moi l'ennemi. C'est moi la lave. Montre-toi. Le renard a mangé, il se transforme en loutre. Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras pas. Je pars. Allez, salut, c'était cool. Dan, tu peux tirer. Allez, vas-y. Tire.
Dan tire un coup de feu. Scène 4.
Elle se promenait, mais tout était prévu. Dire que tout est prévu, on se fait prendre au piège. On croit qu'on est libre d'agir, de penser, d'aller et venir, vers des labyrinthes, de choix, qui s'offrent à nous. Mais non, 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 non. Tout est choisi, tout a déjà été réfléchi. Il y a des modes d'emploi de partout et on te met devant la télé et on t'enlève l'argent. On met des gens bêtes et beaux, les corps tannés et la bouche qui suinte. Je veux être un crocodile qui avance, doucement, qui est dans le marécage et qui attend. Sereinement, avec les yeux qui font peur et la peau qui vaut de l'or. Un putain de crocodile. La force tranquille. Je bouge trop, je sais pas stagner. On croit que pour avancer, faut se remuer, c'est une image commune, une idée. Fausse. Dans les eaux troubles, la vase qui pue. Je sais pas faire. Pour agir au bon moment, avancer patiemment, attendre l'imposant crocodile. Et tout le monde se demanderait, mais à quoi pense-t-il? Mais à quoi pense ce putain de crocodile? C'est parce qu'on sait pas ce qu'il pense qui nous fait peur. Ça se trouve, il voudrait juste nous faire un câlin, un câlinou tout doux, qui sait. Je pensais pas que c'était elle qu'il fallait tuer, je la voyais pas dans mes ennemis. Je sais pas si on m'a fait croire ou j'ai accepté, je sais pas vraiment. J'ai dû lui sauter dessus et tout arracher. Du monde des vivants. Belle toute. Belle. Toute. Tendre. Les joues rouges. La lave, on ne pense pas que ça peut être ça. On arrête quand on n'a plus besoin, on utilise et on manigance. Tout. Elle venait de l'autre monde. Là-bas, ils nous regardent. De loin et ils rient. Parce qu'ils n'ont toujours pas la solution. Et nous, on a l'espoir. Des réponses. La loutre est discrète. Le crocodile est imposant. La loutre a des petites pattes. C'est une espèce protégée. Aujourd'hui, on en trouve moins facilement. Elle a des pattes palmée, elle va dans l'eau sans se noyer, elle a des poils qui s'imbriquent les uns dans les autres et ça l'isole du froid. Il y en a des courts et des longs, des poils. Elle perd l'ouïe et l'odorat dans l'eau, elle peut plus chasser quand elle est dans l'eau, mais avec ses moustaches, elle sent les ondulations de l'eau. Ça doit chatouiller. Et après, elle peut jouer avec sa proie. Elle se sert de pierres pour ouvrir les coquillages. C'est un des seuls mammifères à utiliser des ustensiles pour manger. J'aimerais en inviter une à table. Kate va devenir une loutre. C'est ce que Marilyn a demandé. Elle veut qu'elle soit protégée et que personne la remarque, que personne ne la cherche, que son oncle la retrouve pas. Lui, c'était un sacré crocodile. Tu parles que les femmes, il les aimait pas. Kate. Jolie. Kate. T'as eu raison. Pique à glace contre pique à prépuce. Qu'elle soit tranquille. Jolie loutre. Jolie fille.
Scène 5. 10 ans plus tard, dans l'appartement de Dan et Marilyn. Dan est sur un canapé. Marilyn arrive avec un plateau repas. Il y a un cadre avec une photo de loutre au bord de l'eau et un poster d'un groupe de musique nommé Otters, loutre en anglais, avec Stade de France écrit dessus.
Tu as pris tes cachets?
Ça va commencer.
As-tu pris tes cachets, Dan?
Je suis si excité.
J'aurais aimé y aller en vrai.
Oh, je peux pas, la foule.
Ah, juste toi et moi, c'est bien, sur le canapé, ça me va. Tiens, j'ai fait de la sardine au cottage cheese, je sais que t'aimes ça.
Il va se passer quelque chose.
Oui, c'est un grand soir.
En direct à la TV.
Mais elles sont plus fortes, là, ça commence.
Ah, oh, Joss, c'est Joss.
Ah, mon petit. Ah, mon tout petit.
Il va se passer quelque chose. La loutre va se venger, elle va chercher à se justifier et à ouvrir les veines.
Dan, prends tes pilules.
Ils sont là.
Dan, pas maintenant.
Ils arrivent. Regarde. Regarde.
On entend des grésillements à la télévision, des coups de feu. On entend des cris.
Nous avons ouvert les portes et la musique monte au ciel, Marilyn. On y est arrivé. Je suis heureux. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Les compteurs à zéro. Je mords mes lèvres et attends. L'œil ouvert, la peau dure.
La télévision et la lumière s'éteignent. Fin.
Eva, donc on vient d'entendre Muse.
Oui.
Et on vient d'entendre Showbiz.
Tout à fait, non.
On vient pas d'entendre Showbiz. Ah oui, on vient d'entendre,
d'entendre le texte que tu as écrit qui s'appelle Showbiz. Et donc la révélation, c'est que...
Il s'agissait...
De Matthew Bellamy.
De Matthew Bellamy et du début des groupes Muse, voilà.
Ok, moi je t'ai inspiré.
J'aurais aimé qu'on fasse un espèce de jeu test, tu vois, un quiz.
Auditeur, auditrice,
c'est ça.
Ouais, ouais,
à votre avis, qui c'était? Et vous aurez la réponse la semaine prochaine. Genre en fuste tout le monde.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'y avais pensé aussi et puis je me suis dit non. On ne sait jamais trop si quelqu'un osera appeler ou quoi. Ok, Eva, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là sur la lecture du texte?
Bah voilà, je remercie tout le monde et je remercie surtout Georges qui a 10 jours et qui est là parmi nous et qui s'est très bien tenu pendant toute cette session.
Et ben, merci.
Donc voilà.
Moi j'étais très contente qu'on puisse lire ce texte-là que tu m'avais fait lire déjà quand tu l'as écrit il y a un an. Et donc voilà, en lecture, voilà, c'est chouette de l'avoir entendu. Maintenant, Pauline, je crois qu'on accueille Kenza.
Exactement.
Je te laisse du coup faire cette chronique.
Eh bien, d'habitude, c'est vrai qu'on vous fait un agenda culturel à la fin du Tête de la Gamelle, mais là, il y a Kenza qui a voulu nous parler, venir nous parler d'une thématique particulière. Et Pendant la pièce de Showbiz, on a quand même pu parler du pansori coréen et des gouttes, etc. N'hésitez pas à aller écouter un petit peu justement ces différentes musiques voilà, dont on n'a pas l'habitude, qui sont les musiques traditionnelles. Et du coup, il y a un petit peu un lien avec ça, même carrément, complètement. Et aussi un lien un peu avec l'émission qu'on va vous faire la semaine prochaine, pas l'année prochaine, non, on sera encore en 2017. Et donc, tu veux nous parler, en fait, Kenza, du chant diphonique.
Exactement. C'est ça. Exactement, je voudrais vous parler de ça la semaine prochaine. Pourquoi le chant diphonique? Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'est un peu tombé dessus. Ça fait même pas un mois, j'ai découvert ça un peu par hasard à la télévision et je pensais que c'était complètement faux. Au final, j'ai fait des recherches et j'ai un peu étudié le truc et je me suis rendu compte que c'est une pratique vocale qui, comment dire, qui en un corps fait résonner plusieurs sons différents, qui donne l'impression que plusieurs personnes se trouvent en un seul corps. Alors que non, enfin, honnêtement, c'est un délire.
C'est assez magique pour avoir déjà testé du bout de la langue, on va dire. Ouais.
Et de l'entendre et d'essayer de le pratiquer, ça met vraiment dans un état où t'es posé, où tu te détends, où un peu tu te raccroches avec tout ce qu'il y a autour de toi et t'es moins seul. Enfin, je sais pas, il se passe des choses, quoi.
D'accord.
Il se passe des choses.
Ben nous, on voulait te remercier en tout cas de nous proposer cette découverte.
Avec plaisir.
Et du coup, donc la semaine prochaine, on pourra t'entendre à la suite de l'émission qui sera une spéciale émission théâtre et musique, justement. Voilà, un autre texte que tu auras écrit par rapport au chant diphonique et voilà. Surtout un extrait d'une musique de...
De Natacha Nikeprelvik. Je ne sais pas si je le dis comme il faut.
Eh ben, nous non plus, sonne. On ne sait pas, on va dire que c'est OK. Et la semaine prochaine, oui, du coup, c'est ça, c'est théâtre et musique. Pour le moment, nous, on n'en sait pas plus. C'est Delphine qui gère l'émission. On attend les news. Et du coup, bah, on va rendre l'antenne, c'est ça?
Ouais.
Merci à Léa, la technique. Merci à Eva. Merci à Kenza. Merci à Loïc. Merci à Anso. Merci à Jean. Merci à Georges. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On vous embrasse. Bon week-end.
Bon week-end.
Prochaine.
Et belle fête des lumières.
Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue.